مدينة الألفان بوردو.
كامباس بوردو.
Il est midi 10, vous écoutez Café Campus, on est en direct et à présent on retrouve Pauline, Pauline qui nous parle sport.
Bonjour et bienvenue dans la chronique L'Esprit de Vilma, la chronique de l'actu du sport féminin. Cette semaine, j'ai choisi de m'attarder principalement sur les résultats de Sport Co. Au programme, on aura du basket, du hand, du rugby et du foot. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai calé un petit peu de surf au milieu. Je vous amènerai donc au Salvador, là où les vagues s'écrasent sur un sable doré. Ça fait rêver. Étant donné que la liste des Bleus a été annoncée pour le mondial de foot, j'ai décidé de vous faire remonter le temps pour découvrir les débuts du foot féminin. Je vous parlerai donc du premier match officiel joué par des femmes, je vous parle du match Écosse-Angleterre. Ce match a lieu alors que l'ensemble de la société change, à la veille de la Première Guerre mondiale. Alors que le droit des femmes est déjà rudement défendu, l'avenir des femmes dans le foot est aussi un enjeu.
Et tu commences cette actu par nous donner les résultats plus que favorables de nos basketteuses.
Oui, alors que l'Euro de basket avance à grands pas, les Françaises ont 100% de réussite à leur match de préparation. À 5 jours de l'Euro, leur ultime match de préparation, qui s'est joué samedi dernier, les a opposées à la Grande-Bretagne. Les Françaises ont mené tout au long du match et ont su gagner 76-54 grâce à leur défense solide et à leur enchaînement de shoot à 3 points. Maintenant, rendez-vous le 15 juin en Slovénie et en Israël pour l'Euro. Le premier match pour les basketteuses françaises les opposera aux Allemandes. Le match aura donc lieu jeudi à Ljubljana. La France affrontera ensuite la Grande-Bretagne et la Slovénie pour la phase de poule. On regardera tout ça très attentivement. En effet, en vue des JO de Paris et comme pour toutes les compétitions qui se déroulent cette année en 2023, les places de qualification aux JO sont en jeu. Pour l'Eurobasket, les billets d'entrée seront donc garantis aux 5 meilleures équipes de basket.
La semaine dernière, tu nous as parlé des compétitions de surf, mais entre-temps, il y a eu quelques évolutions.
Oui, pour rester dans cette dynamique de qualification aux JO, les World Surfing Games se sont terminés mercredi dernier au Salvador. Alors que la réunionnaise Joanne Defay s'est déjà qualifiée pour participer aux JO de Paris 2024, une seconde française l'a rejoint. Vaïne Fierro a gagné le ticket pour décerner à la meilleure surfeuse européenne de la compétition. La Tahitienne pourra mettre à profit son expérience lors des Jeux Olympiques qui se dérouleront chez elle à Tahiti. Parlons maintenant de mon sport fétiche, le handball. La semaine dernière a eu lieu la finale de Coupe de France de hand opposant Metz à Paris. Les Messines ont raflé la victoire en s'imposant 37-27 à la capitale. Les handballeuses de Metz sont donc vainqueurs du championnat de France, mais elles sont aussi quart de finaliste de la Ligue des Champions et maintenant lauréates de la Coupe de France. Waouh, ça commence à faire beaucoup. Les Dragons de Metz sont donc invaincus face aux équipes françaises avec un total de 24 victoires en championnat. C'est maintenant un nouveau record que Metz s'offre avec ses 11 titres en Coupe de France. Je profite du fait qu'on enchaîne les Sport Co pour faire un petit point sur le rugby. La finale du championnat Elite 1 a opposé samedi dernier les Bordelaises à Blagnac. Le match s'est donc déroulé chez nous, à Bordeaux. Les Lions de Bordeaux ont renversé le score à la 79e minute. Après une pénalité obtenue en faveur des Bordelaises, la mêlée explose. À seulement 5 mètres pour marquer l'essai, la balle de match est en jeu. Les Lions persévèrent et renversent l'avantage avec un essai transformé leur permettant de gagner 27-23 à la maison.
Et pour finir cette actu, la liste des Bleus a été annoncée la semaine dernière.
Oui, nous retrouvons parmi les 26 Bleus sélectionnés, 12 joueuses qui étaient déjà présentes lors de la Coupe du Monde de 2019. Parmi les principales informations, on peut noter que Wendy Renard est de nouveau sélectionnée et restera la capitaine des Bleus. Le retour d'Amandine Henry nous fait également sourire. N'étant plus sélectionnée en équipe de France depuis 2 ans et demi, son retour est agréable. Avec le remplacement de Corinne Diacre par Hervé Renard, ce changement de sélectionneur offre à Amandine Henry l'opportunité de participer à sa 3e Coupe du Monde. Les Bleus ont également enfin trouvé un diffuseur. N'étant pas encore une décision définitive, le président de la Fédération française de foot a déclaré que le mondial sera, normalement, disponible sur France Télévisions et sur W9 du groupe M6. Personnellement, j'avais peur de ne pas trouver un moyen de regarder les Bleus jouer. Je vous donne donc rendez-vous le 23 juillet pour le premier match d'une footballeuse, au cours duquel les Bleus affronteront la Jamaïque. Et j'ai hâte d'y être.
Et merci pour cette transition. Au lieu de continuer l'actu, tu vas à présent nous faire remonter le temps pour nous parler des origines du foot féminin.
Comme vous devez certainement le savoir, le foot est né en Angleterre. À la moitié du 19e siècle, les étudiants anglais décident de réglementer ce sport. On parle bien d'étudiants de l'université prestigieuse, privée et non mixte, de Cambridge. Oui, le foot est avant tout un produit de l'élite anglaise, bien riche et bien masculine. Alors on pourrait se demander, comment ce jeu est passé d'un jeu élitiste à un jeu populaire ? Mais là n'est pas le sujet. Nous, on veut comprendre comment s'est démocratisé le foot pour les femmes. Et tout cela commence le 9 mai 1881 au stade de Leicester Road Stadium à Édimbourg. Ainsi, devant 1000 personnes, le premier match féminin Écosse-Angleterre a lieu. Et pour rester fidèle à l'actu du sport, je vous annonce que ce premier match historique du foot féminin a été remporté 3-0 par les Écossaises. Maintenant, vous imaginez une vingtaine de femmes en bottes à talons, dans des tenues peu pratiques, qui ne sont pas à la maison et qui font autre chose que des sports dits féminins. Nous sommes dans un contexte où la femme est légalement dépendante de son mari. Et là, un groupe de femmes joue au foot dans la gadoue. C'est un vrai scandale pour l'époque. Ce match et les suivants ne sont pas du tout bien accueillis par les footballeurs, les journalistes, les religieux, bref, par la société masculine de l'époque. À la suite de deux autres rencontres sportives, les joueuses sont violentées par un groupe d'hommes et sont contraintes de s'enfuir avec l'aide de la police. À la suite de cet épisode catastrophique, le foot féminin est mis de côté pendant 10 ans. Mais elles n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et ouais, à la fin du 19e siècle, est marqué par un mouvement féministe européen, au même moment luttant pour le droit de vote des femmes. Et dans le lot des féministes anglaises, nommées les suffragettes, il y a une gardienne écossaise pas très très contente. Et je vous parle d'Helen Matthews. Ainsi, la militante suffragette et gardienne de but, l'écossaise Helen Matthews brave le scandale et la haine publique pour défendre le foot féminin en même temps que les droits des femmes. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quand on vous parle de foot, de football anglais, vous pensez à quel club ?
Manchester.
Et oui, plein dans le mille, je vous parle de Liverpool et de Manchester. En 1894, dans le journal The Daily Graphic, une petite annonce fait son chemin. Un nouveau club de foot féminin au nord de Liverpool recrute des joueuses. Et alors là, c'est le début de l'aventure et des premières compétitions. Les réponses sont enthousiastes dans cette région pleine de footeux. Une trentaine de femmes se présentent pour être joueuses et d'autres veulent apporter leur soutien à l'équipe. Et dans le lot, on retrouve notre écossaise, Helen Matthews. Puis la Première Guerre mondiale est un tournant décisif pour l'ensemble de la société, pour les droits des femmes et donc aussi pour le foot féminin. Comme les hommes sont envoyés au front, les femmes prennent le relais et travaillent dans les usines. Et qu'est-ce que les ouvriers font habituellement pendant leur pause ? Ils jouent au foot. Alors les femmes font de même. Donc aussi bien en Angleterre qu'en France, le sport féminin se développe grâce aux usines. Enfin, en France, on parle plutôt d'éducation physique, pour apporter un sens plus moral à cette pratique. Après tout, on ne peut pas dire que les femmes font du sport comme les hommes. Puis à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le foot féminin est totalement mis sur la touche. C'est la période où les fascistes et les nazis définissent la place de la femme au sein du foyer familial. Ce n'est pas une période très cool pour l'ensemble de la société européenne, surtout pour les femmes. Et donc, sous le régime de Vichy, le foot féminin est complètement interdit. C'est seulement en 1968 que les joueuses de Reims font renaître le foot féminin en France. Donc, les Rémoises changent la donne en développant une dynamique régionale, puis nationale. Alors qu'au départ, la participation des femmes au match servait uniquement à faire un coup de pub pour avoir du public et des journalistes lors d'œuvres caritatives, les organisateurs ne pensaient pas une seule seconde que les femmes joueraient aussi bien. Puis de fil en aiguille, les compétitions se développent et la FFF finit par reconnaître l'existence du foot féminin. Mais il y a aussi une renaissance du foot féminin en Europe. Par exemple, le premier match de l'équipe de France a lieu le 17 avril 1971 contre les Pays-Bas et les Françaises gagnent 4-0. Après s'en suivent l'importation du foot aux États-Unis et une internationalisation progressive avec la Coupe du Monde, l'Euro et les JO. Et voilà comment on arrive rapidement au foot féminin du 21e siècle.
Campus Bordeaux. 98.1.
Campus Bordeaux.
88.
Et un grand merci, Pauline, pour toutes ces explications sur le foot féminin. Et on espère qu'on verra davantage de foot féminin sur les grandes chaînes de télé, qu'on pourra suivre ça de manière plus proche. Hein, parce que c'est vrai que la place de la femme au niveau du foot à la télévision et médiatiquement, c'est encore quelque chose de compliqué. Même si ça s'améliore.
Ça fait son chemin.
Ça fait son chemin.